puis ces jardins suspendus, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bienvenue dans la énième édition des jardins suspendus. Montez, je vous en prie. Aussitôt qu'il pleut, il détend sa muqueuse, l'escargot tantrique. Aussitôt qu'il pleut, il détend sa muqueuse, l'escargot tantrique. Que se passait-il quand Hildegard von Bingen dictait à son conseiller spirituel, le moine Volmar, quelqu'une de ses visions? Que se passait-il quand Hildegard von Bingen dictait à sa secrétaire, une consœur à laquelle elle était très attachée, Richardis de Strade, quelqu'une de ses visions? Pour quel genre de phénomène Hildegard von Bingen a-t-elle demandé l'avis éclairé du cistercien Bernard de Clairvaux lui-même? Quelle est la nature de ce qu'elle confia au livre très original, mais parfaitement lisible aujourd'hui, le Sivias, de Sivias Dei, c'est-à-dire « Connais les voies de Dieu ». Qu'est-ce qui fut approuvé par sa sainteté le pape Eugène III lors du synode de Trèves entre 1147 et 1148? En bref, qu'est-ce qu'une vision? Voilà une dame très raisonnable, docteur de l'Église, artiste accomplie, tant en musique qu'en poésie et en illustration. Elle connaît les plantes et leurs vertus, les animaux et leurs caractères, et même les pierres et leurs énergies. Très souvent, et depuis longtemps, elle voit périodiquement des images, mais ces images ne sont pas simplement intérieures, comme lorsque nous rêvons ou que nous voyons pour nous-mêmes les scènes d'un livre que nous lisons ou d'une histoire qu'on nous raconte. Ces images, la visionnaire les perçoit comme absolument extérieures à elle, quoique différentes des autres objets qui l'entourent et qu'elle voit également. Ces images, elle les décrit comme nous décririons au téléphone un paysage pour un ami qui n'a pas pu être là. Sauf qu'elle ne les décrit pas au téléphone, qui n'existe pas à l'époque, mais de vive voix, comme nous disons. Pour Volmar, par exemple, dont j'ai déjà parlé, elle décrit et Volmar prend des notes sous la dictée, bien tranquillement, studieusement, dirions-nous. Il ne faut pas se tromper et bien écouter ce qu'Hildegard dépeint, car personne d'autre qu'elle ne voit quoi que ce soit. Des images, tout droit sorties de son imagination, et tout aussi directement consignées par les témoins d'Hildegard, qui ne sont témoins que d'Hildegard qui voit. Bref, ils ont confiance, plus peut-être qu'Hildegard elle-même. Comme Hildegard, de son propre aveu, ne maîtrise rien, elle est un peu comme un rêveur éveillé qui verrait seul son rêve, comme on va seul au cinéma, parfois, dans une salle vide ou presque. Ce rêve, comme tous les rêves, a un sens. Mais pour Hildegard et ses contemporains, et bien d'autres après, ce sens n'a pas de sens pour Hildegard seulement. Les visions ne servent pas à deviner ce qui tourmente Hildegard. Ces visions servent à savoir ce que Dieu veut. Rien de moins. D'ailleurs, ces visions parlent assez bien à tout le monde car elles résonnent avec le monde terrestre dans son ensemble et avec les aspirations et les craintes célestes de tout un chacun.
I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born and you could not keep warm, so you moved away the mountain that the sun rose behind, and you said yourself a prayer and lay down with the blind. But you lost him in your freedom and you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. the vow of compassion that you swore through your teeth when the war began to end and the photographs weep. Well, nobody blames you as the train pulls away with its cargo of snow for these German paperweights. But you lost him in your freedom and you need him now, your wife. Blessed is the memory of everybody's child. Well, it's 5 in the morning. There's no one at home except for your wife and your child and the phone. Somebody's got to listen to a promise or two. Oh, this room is far too small for a pilgrim like you. But you lost him in your freedom and you need him now, your wild. Blessed is the memory of everybody's child. Now that you've decided to follow the sun like a shadow of birds or a king on the run. Oh, your chains are too dark for the seas you must swim. You are smiling at the seaweed, but your smile is too grim. Oh, you lost him in your freedom. You need him now, you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. Blessed is the memory of everybody's child. Blessed is the memory of everybody's child.
Jean-Marc Guitti était déjà venu nous voir pour Passage et présence de Simone Veil. Il avait parlé à Fréquence 7. Et à cette occasion, il m'avait confié un ouvrage que nous allons lire dans quelques secondes, Saint-Michel. Il reviendra nous voir le 24 juin à la librairie du Château pour nous présenter son livre sur l'écologie et la Camargue, le 24 juin au matin à la librairie du Château. Eh bien, il me reste seulement à vous laisser entendre Jean-Marc Guitti.
Ange d'ici. Des anges ici sont descendus sur terre. Ils ouvrent le passage entre l'ici-bas et le ciel. Ici, la terre, c'est l'ancien Velay. D'abord et avant tout un pays de montagnes étranges. Nous savons depuis à peine 2 siècles et demi que ces montagnes sont des volcans. Avant d'être ainsi identifiées, elles étaient pour le peuple Vélave installé ici un paysage prodigieux, invitant au culte. Elle tournait les hommes vers l'invisible. Faut-il prendre au sérieux l'invisible? Pourquoi n'existerait que ce que notre système optique peut voir? La vue est une fonction nécessaire à de nombreux animaux terrestres, elle est très variable d'une espèce à l'autre. Elle nous renseigne davantage sur notre appareil nerveux que sur le réel. Notre vie intérieure, nos émotions, nos pensées sont déjà de l'invisible. Au Moyen-Âge, des anges, par la peinture, la sculpture ou le vitrail, sont venus, en ce prodigieux relief de la terre, donner une certaine figure aux esprits supposés se tenir au ciel. Ils sont les anges d'ici, anges du Velay et d'alentour. On les voit au Puy, à Polignac, à Brioude, à La Vaudieu, à Blassac, à La Chaise-Dieu, à Saint-Bonnet-le-Château, etc. Pour l'un d'eux, l'archange Saint-Michel, on a érigé une extraordinaire chapelle à aiguilles. De ces anges, nous voudrions ici nous approcher un peu par la réflexion raisonnable et les mots.
Les anges viennent des langues mortes.
Saint-Michel et les autres anges sont venus vers les hommes bien avant le Moyen-Âge et bien loin d'ici. Ils arrivent de haut et ils arrivent d'Orient. Ils sortent des textes et des langues anciennes d'où ils prennent leur nom. Ils sont nommés de manière générale par un mot qui les désigne comme des porteurs de messages. C'est ainsi qu'on les appelle aussi bien en langue grecque, « agelos », que dans les langues sémitiques, Malhak. Mais ils ont aussi parfois des noms propres. Michel, Gabriel, Raphaël. Est-ce que ce sont les mêmes anges, ces anonymes, confondus en une multitude, s'organisant en hiérarchie céleste, et ces saints, archanges, dotés d'un nom, d'une personnalité, d'une histoire? Leur point commun, en tout cas, c'est qu'ils sortent, depuis la haute antiquité, de la parole humaine. Ils sont des êtres dont on parle, des êtres de langue. Thomas d'Aquin le reconnaît, comme en passant, dès le début du traité qu'il leur consacre, évoquant la créature purement spirituelle qui est nommée ange dans l'écriture sainte. On ne parle des anges et on ne fait des images pour les représenter que parce qu'il y a des mots pour les dire, nom commun et nom propre.
Un ange, de son histoire, à sa présence.
Les anges d'ici, ceux de nos églises, sont des anges chrétiens. Ils viennent de la Bible, comme les anges hébraïques, mais ils ont été façonnés par la tradition catholique, c'est-à-dire par l'Église de Rome, au cours d'une longue histoire. Au XIIIe siècle, Jacques de Voragine, évêque de Gênes et auteur de la Légende dorée, est conscient de cette appropriation latine, de l'angélologie juive, lorsqu'il écrit à propos de Michel « Il fut jadis prince de la synagogue, mais à présent, le Seigneur l'a fait prince de l'Église. » L'ange catholique est produit par des images peintes et des sculptures, par une architecture qui en définit la géographie, par une histoire culturelle, et encore une histoire des croyances. Il est également produit par une théologie écrite en latin, dont la somme de saint Thomas d'Aquin est l'œuvre tardive majeure. De tout cela, certes, on peut faire l'histoire. Mais de quoi, au juste, fait-on l'histoire si l'on ne précise pas ce qu'est un ange ?
La musique, c'était Leonard Cohen, Blessed in the Memory. C'était une chanson extraite de l'album Songs of Leonard Cohen, 1967, un des outtakes, une de ses productions retirées. Donc décembre, août 67 pour l'enregistrement, décembre 67 pour la publication. Voilà. C'est merci, Landy Unger, l'ange musical des Jardins Suspendus qui nous a choisi cela. Merci Sophie Lefebvre qui a cette fois donné sa voix à Jean-Marc Guitti, Saint-Michel. Merci enfin à Sylvain qui réalise tout ça. Ciao, ciao.